Vous êtes bien sur Misen TV, très heureux de vous recevoir pour un nouveau rendez-vous avec l'histoire de la Palestine. Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Palestine, soumise à une opération systématique de destruction militaire dont la finalité génocidaire n'est malheureusement plus un secret, nous vous proposons de remonter le fil de cette histoire à la fois héroïque et tragique. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Youssef Boussouma. Bienvenue sur Misen TV, Youssef.
Salam alaikum.
Comme ça.
Bonjour.
Vous êtes prof d'histoire et un très bon connaisseur de l'histoire de la Palestine. Et pour commencer cette série de chroniques historiques que nous proposons à nos auditeurs, on ne pouvait pas ne pas commencer par la genèse du sionisme, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans le fond. Et évoquer la genèse moderne du sionisme, c'est inévitablement parler de Theodor Herzl. Né en 1860 dans le quartier juif de Budapest en Hongrie, l'auteur du célèbre ouvrage L'État des Juifs, écrit en 1896, est cofondateur avec Max Nordau du Congrès sioniste de Bâle. Alors justement, Youssef Boussouma, pour commencer cet entretien, est-ce que l'idée de faire remonter la genèse du sionisme à Theodor Herzl vous semble-t-elle juste?
Alors, on pourra définir le sionisme de différentes façons, et il est défini de plusieurs façons, très souvent. Mais si on parle bien du sionisme politique, hein, alors Sion, du nom d'une des collines qui entoure Jérusalem, hein, et qui est effectivement, c'est une expression qui a été inventée par Birnbaum en 90, je crois, 1890. Donc, si on parle bien du sionisme politique, parce qu'on parle bien du sionisme politique, parce qu'il s'agit de préciser maintenant, parce il y a différentes formes de sionisme, c'est-à-dire celui qui consiste à proposer la création d'un État juif en Palestine, parce qu'il y a eu des propositions d'État juif ailleurs qu'en Palestine, hein, mais si on pense bien à cette forme de sionisme, alors c'est avec Herzl, alors c'est Herzl qui va commencer à concrétiser. Mais il y a eu déjà auparavant d'autres personnes donc, hein, qui se sont intéressées à cette idée. Et donc, du coup, Herzl se situe dans une petite continuité. Alors, qui auparavant, avant Herzl, alors un certain nombre comment, de penseurs juifs, dont certains viennent du socialisme, hein, qui en tout cas avaient une conception un petit peu matérialiste de l'histoire et qui ensuite ont évolué. Mais il y a eu aussi des penseurs ou même des hommes politiques non juifs avant Herzl. Alors on cite assez souvent comme étant le premier promoteur d'une idée de recréation, parce que c'est comme ça que les choses étaient dites, d'un État juif sous forme d'un royaume, évidemment à l'époque, en Palestine. On cite comment Oliver Cromwell qui est le Lord Protecteur de l'Angleterre, hein, et début 17e. Et donc, du coup, il y a eu, alors on pense aussi parfois à Napoléon. Napoléon aurait eu aussi l'idée de réinstaller les Juifs en Palestine. Il y a enfin, un certain nombre d'idées comme cela. Il y a eu aussi des prédicateurs juifs. Des rabbins juifs illuminés, certains qui se proclamaient roi des juifs, qui se proclamaient messie des juifs, c'est moi le messie, etc. Et c'est moi qui vais conduire. Bon, mais concrètement, c'est avec Herzl que cette idée d'un État juif, plutôt en Palestine, parce que Herzl est parfois vague sur la question, hein, eh bien, va se concrétiser.
Alors on aura l'occasion d'y revenir hein, sur le choix de la terre et de la destination. Mais ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'au départ, Herzl ne semblait pas convaincu par l'idée sioniste. Par exemple, voici ce qu'il écrit dans un journal en faisant le compte-rendu d'une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas, fils, dans laquelle un personnage encourageait les Juifs à rentrer en terre promise. Le bon Juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. Mais sincèrement, un tel juif doit savoir qu'il ne rendrait guère service aux siens en leur rendant leur patrie historique. Et si un jour les juifs y retournaient, ils s'apercevraient dès le lendemain qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre en commun. Ils sont enracinés depuis de longs siècles en des patries nouvelles, dénationalisées, différenciées, et le peu de ressemblance qui les distingue encore ne tient qu'à l'oppression que partout ils ont dû subir. Fin de citation. Certains disent que ce serait l'affaire Dreyfus qui aurait converti par la suite Herzl au sionisme, hein, puisque comme on le voit dans cette citation, il n'est pas convaincu. Et même si cela fait débat, hein, tout le monde n'est pas d'accord sur ce virage, on va dire, de l'affaire Dreyfus.
Oui, alors, Herzl est de culture allemande. Hein, il est né à Budapest, certes, mais dans l'Empire austro-hongrois, hein, de culture allemande majoritaire. Donc, il est complètement imbibé avec de cette vision, et une vision romantique aussi, hein, puisque on est en pleine période où le romantisme allemand anime la résurgence de l'idée de germanité, etc., sous différentes formes. Hein. Donc, il vit dans cette espèce de fièvre nationaliste, romantique, qui caractérise la fin du 19e siècle. Hein. Et Herzl, au départ, est quand même, comme beaucoup de juifs d'Europe, hein, qui ont opté pour l'assimilation, donc c'est un juif assimilé à tous les sens du terme, et qui voit la Révolution française, donc disons l'égalité que la Révolution française apporte aux juifs, hein, on se souvient du comte de Clermont-Tonnerre au moment de la Révolution, une égalité individuelle, pas communautaire, tout pour les juifs en tant qu'individus, enfin en tant que citoyens, hein, mais rien pour les juifs en tant que communauté. Hein, mais en tout cas, beaucoup de membres des communautés juives européennes sont séduits par cette idée d'égalité que porte la Révolution française. Et c'est important. Donc ce qui fait que Herzl, au départ, ne voit pas du tout, n'a pas de conception communautaire même des juifs, hein, et il envisage tout à fait l'assimilation.
Alors, est-ce qu'on sait finalement, puisqu'on parlait de... Alors, certains disaient que c'est l'affaire Dreyfus en France, donc la condamnation d'un général... donc de
capitaine.
D'un capitaine, pardon. Oui, tout à fait, un capitaine de confession israélite, donc qui a été, je crois, accusé de haute trahison.
C'est ça.
Voilà, et finalement, un procès a eu lieu.
Au retour de 1594.
Voilà, Émile Zola avait
pris la défense.
Avait pris la défense... Du capitaine Dreyfus, et donc finalement cette affaire a été le catalyseur finalement d'un certain antisémitisme en France. En tous les cas, ça s'est cristallisé comme ça dans la conscience nationale française.
Alors, c'est toujours pareil, on peut voir les choses comme un verre à demi vide ou à demi plein. Le père de Lévinas, du philosophe Lévinas,
Emmanuel Lévinas, oui.
Lorsqu'il apprend ce qui se passe à Paris, on peut toujours voir on peut toujours lire les événements de façon différente. Hein. Lui voit ça de façon plutôt positive. Enfin positive. Je m'explique. Il dit que la France, qu'un pays se déchire pour l'honneur d'un petit capitaine juif, c'est plutôt positif parce que dans d'autres endroits. Il se déchirerait même pas, ce pays. Unanimement, il serait contre ce capitaine. Donc c'est pour ça que je dis que l'idée selon laquelle ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus...
Il y avait les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc la France était divisée en deux camps, on va dire.
Oui, parce qu'on sait qu'en fait, l'affaire Dreyfus, ce qui était visé, c'est pas uniquement les Juifs, enfin les anti-Dreyfusards, c'est aussi l'idée de République. Et que la grande majorité des anti-Dreyfusards, ce sont des gens qui refusent la République. C'était une façon de s'opposer, parce que la République avait accordé l'égalité aux Juifs, et donc l'intégration, etc., etc. Eh bien, s'opposer aux Juifs, et l'affaire Dreyfus va cristalliser tout cela, c'était aussi une façon de s'opposer à cette République. Hein, c'est pour ça que beaucoup de monarchistes sont anti-Dreyfusards, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que, vu de l'extérieur, de loin, et de la lointaine Russie, où l'antisémitisme était extrêmement fort, était terrible, qui surgissait en poussée, en fièvre,
de pogroms,
dévastateurs, eh bien, c'est évident que le fait de dire que finalement, dans cette France, eh bien, le pays se divise quand même pour l'honneur d'un petit capitaine juif, c'est quand même pas si mal que cela. Non. Alors, c'est pour ça que je dis. Alors, l'idée, comme quoi, alors, l'autre lecture, et moi, je pense qu'il y a une réécriture, peut-être, une relecture de ce qui s'est passé. Et affirmer, à mon avis, faudrait aller plus loin dans l'analyse, parce que ce sont quand même des faits qui sont un petit peu anciens. Est-ce que Herzl a vraiment été... Oui, l'affaire Dreyfus va donner lieu à un déferlement de haine antisémite, mais elle va aussi permettre l'irruption de la gauche. Vous savez qu'on date précisément, enfin en France, l'idée de gauche, c'est avec l'affaire Dreyfus. C'est avec l'affaire Dreyfus que se cristallise ce qu'on peut appeler la gauche française. Vous savez que cette idée de séparation droite-gauche dans la vie politique, c'est quand même assez particulier. La France est vraiment un petit peu le modèle. Et on considère généralement, par la suite, il y aura la création de la Ligue des droits de l'homme, à la suite de cela, etc. Donc certains disent, oui, mais cette affaire Dreyfus, elle a permis l'irruption d'un corps politique, d'une alliance politique qu'on appelle la gauche, qui regroupait un grand nombre de socialistes, hein, même si certains ont même été anti-Dreyfusards, il faut le dire, certains courants, hein, socialistes. Mais enfin voilà. Donc il faudrait revoir un petit peu cette idée. Qu'est-ce qui fait que Herzl va à ce moment-là, eh bien, être. Alors, on comprend tout à fait qu'il soit catastrophé par le déferlement de haine antisémite, hein, mais voilà, il faudrait peut-être approfondir cette idée.
Alors, pour mener à bien le projet d'État donc qui est le sien, hein, qui est celui de Theodor Herzl, il décide finalement de lancer une campagne internationale. Il essaye de se rapprocher de toutes les personnes qui sont susceptibles de l'aider dans ce projet. Il va donc se rapprocher, par exemple, des Rothschild, hein, le baron Edmond de Rothschild notamment, ou Maurice de Hirsch. Il écrit aussi, ou il demande plutôt des lettres de soutien à différents personnages de cette époque, des personnages qui jouissent d'une importance, d'une influence. Le pape Pie X, par exemple, qui va le recevoir. Le roi Victor Emmanuel III. Ou Cécile Rhodes, voilà. Et donc, on voit bien l'activisme qui se met en place de la part de Theodor Herzl dans ce projet, dans cette réalisation, puisqu'il lui-même parlera, on se penchera un peu plus dans une seconde partie de l'émission de l'entretien sur le livre de Theodor Herzl. On va pour l'instant essayer d'épouser le fil historique, hein, de ce cheminement. On voit qu'il lui-même dit que ce n'est pas une utopie, voilà. Donc, on voit la tentative de réaliser, de concrétiser ce projet d'État des Juifs. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Youssef Boussema, sur cette période de rencontres, de parrainage politique et financier?
Oui, effectivement, c'est une période qui est extrêmement intéressante. C'est une des périodes au cours de laquelle Herzl va tisser de nombreux liens, des réseaux. Herzl sait que... Alors, il considère d'abord que la question juive n'est ni une question religieuse, ni une question sociale, parce que, question religieuse, il n'est pas rabbin lui-même, si on le verra, il compte s'appuyer sur un réseau de rabbins, etc., pour aboutir à son projet. C'est pas une question qui, pour lui, est complètement religieuse, même si la religion intervient comme instance politique, hein, comme instance politique. Et la Bible est un petit peu vue comme un livre d'histoire. Hein. D'ailleurs, ce sera un petit peu l'idée que partageront tous les sionistes, jusqu'au bout, même les sionistes qui s'affirment socialistes, comme Ben Gourion, verront toujours un petit peu la Bible comme un livre d'histoire, et les Hébreux comme un peuple avec qui est en train de réaliser une sorte de libération nationale. Toujours est-il que Herzl ne voit pas cette question sous une forme religieuse, pas sous une forme sociale. La forme sociale, ça voudrait dire essayer d'émanciper les travailleurs juifs, les paysans juifs, en tant que classe, et cela pourrait être une solution à leur situation, comme le pensent pas mal de penseurs socialistes, on le verra, notamment ceux qui constitueront le Bund, hein, le Parti Socialiste Juif, aux alentours de 1897, si je ne m'abuse. Dans ces années-là. Et non, ils voient la question juive comme étant une question nationale. Donc, et d'ailleurs, c'est le sous-titre de son livre, hein, c'est apporter une réponse à la question juive. Alors, la question juive que certains voient comme un problème juif, les antisémites justement, hein, mais que quelqu'un comme Herzl voit comme une question qui se pose, finalement, les juifs constituent pour lui, constitueraient pour lui un peuple en tant que tel, et qui devrait réaliser son objectif national. Et alors, la rencontre avec Victor Emmanuel d'Italie, avec le roi Victor Emmanuel, roi d'Italie, parce que vous savez que c'est l'anagramme de Verdi, hein, c'est ça Verdi, hein, Victor Emmanuel, rey des Italia. Hein, et donc du coup, l'Italie a une grande importance pour un autre prédécesseur de Herzl justement, qui est Moïse S, qui est d'abord marxiste, qui est socialiste, marxiste, et on peut dire que c'est le grand précurseur de Herzl. Il écrit en 1840 un bouquin qui s'appelle « De Rome à Jérusalem », hein, « De Rome à Jérusalem ». Et il prend comme modèle l'Italie, justement. Ce n'est pas un hasard. La résurgence, comment le retour, la renaissance de la nation italienne, qui est récente, hein, comme l'Allemagne et l'Italie sont deux nations qui vont renaître au XIXe siècle. Il n'y a pas de nation allemande organisée dans un État allemand unifié, etc., hein, avant 1870. Et il n'y a pas de comment de pareil pour l'Italie. Et donc l'Italie a un grand rôle, pour donc c'est pas un hasard quand Herzl va rencontre le roi Victor Emmanuel qui est plébiscité par les Italiens pour devenir le roi d'Italie, donc qui va unifier tous ces territoires italiens qui étaient partagés, hein, avec une grosse partie qui était occupée par justement l'Empire austro-hongrois, etc. Eh bien voilà, l'Italie résonne comme un modèle. Hein. Alors il y a d'autres rencontres. Il y a Cécile Rhodes. Effectivement, que vous avez cité. Alors, Cécile Rhodes, c'est très intéressant. C'est Cécile Rhodes qui donnera naissance à la fameuse Rhodésie, qui était un des États d'Afrique du Sud, hein, État colonial, État racial, évidemment. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Cécile Rhodes aura des liens durant son vivant avec plusieurs responsables sionistes. Et je crois avec Weizmann également, il y aura des échanges de correspondances et ça sera la base d'un lien avec l'Afrique du Sud. On sait bien qu'il ne sera jamais démenti jusqu'à la fin de l'apartheid, hein, dans les années 80. Hein. Donc Cécile Rhodes et la façon dont l'Afrique du Sud a été colonisée, hein, avec une compagnie à Chartres, c'est ce que propose Herzl dans son livre L'État des Juifs, eh bien, est tout à fait intéressante. C'est pas un hasard s'il rencontre Cécile Rhodes. Il a une conception très proche, une conception coloniale, comment des choses. Et Herzl sait très bien qu'il ne peut faire aboutir son projet qu'avec l'aide d'une grande puissance. Et quelle est la grande puissance à l'époque? C'est bien évidemment l'Angleterre. La France, en une certaine mesure, on va la voir également.
Alors, je le rappelais tout à l'heure, donc il essaye de se rapprocher également du baron Edmond de Rothschild qui avait déjà acheté des terres en Palestine depuis 1882. Est-ce que ça signifie que cette idée d'établir un État en Palestine ou ailleurs était une idée partagée, y compris par la grande bourgeoisie juive européenne de cette époque? Ou est-ce que c'était encore une idée qui était en train de se frayer un chemin? Par exemple, chez le baron de Rothschild, est-ce qu'il y avait cette finalité de créer un État?
Non, il ne semble pas que chez le baron de Rothschild, comme un autre baron qui s'appelle aussi de Hirsch, qui
Maurice
sont
de Hirsch, oui.
hein, Maurice de Hirsch, qu'on appelle les barons philanthropes, hein, il ne semble pas qu'il y ait eu chez eux l'idée de créer un État, hein, en tant que tel. D'ailleurs, Rothschild est opposé aux idées de Herzl au moment du congrès, hein, du premier congrès de Bâle. Non, pour de Hirsch et pour Rothschild, l'idée est d'abord la réhabilitation des populations juives très pauvres de l'Empire russe. Hein, parce que, ne l'oublions pas, les deux tiers des juifs du monde sont concentrés dans ce qu'on appelle la zone de peuplement. Hein, la zone de peuplement de résidence, enfin la zone de résidence obligatoire qu'avaient tous les juifs de l'Empire tsariste, hein, d'accord, et qui était une zone située en gros aux confins entre la Lituanie, la Russie d'aujourd'hui, la Pologne,
L'Europe de l'Est,
voilà, l'Ukraine,
l'actuelle Europe de
et
l'Est.
précisément, oui, vraiment, pas sans, plutôt, et puis une partie de la Roumanie, bien sûr, la Bessarabie, etc. Bon, et donc c'était une zone de peuplement obligatoire pour ces populations juives slaves, hein. Et donc, du coup, qui vivaient dans une misère effroyable. Il y a des rapports de l'époque, hein, qui montrent la situation dans laquelle vivaient ces populations, qui étaient soumises, évidemment, à des poussées d'antisémitisme, de pogroms récurrentes. Et donc, l'idée de Rothschild et de Hirsch, et l'idée, la bourgeoisie, des bourgeoisies juives occidentales, qui ne sont pas du tout dans la même situation, pour eux-mêmes, ils ont plutôt des idées d'assimilation. Ce sont des gens qui sont parfaitement assimilés, qui n'ont pas du tout l'intention de quitter Paris, l'Angleterre, pour rejoindre la Palestine. Hein. Mais par contre, pour les Juifs pauvres qui vivent dans ces ghettos terribles de l'Empire tsariste, oui, ça pourrait être une solution où, alors, excusez l'expression, mais il pourrait être utile. Hein, parce qu'effectivement, il pourrait se réhabiliter, parce qu'il y a cette notion de dégénérescence, de décadence. Alors, ce sont des idées raciales propres à l'époque, que tout le monde partage à l'époque. Hein. Faut bien avoir ça en tête. Hein. On est à la fin du 19e, et on est dans toute cette conception biologiste parfois des hommes, etc. Ou même on va créer une typologie pour les hommes avec l'invention des races, hein, n'oublions pas.
Bobino,
Voilà,
voilà,
exactement.
ouais.
Donc il y a ces idées
Il y a le darwinisme aussi
voilà,
social, qui est des
exactement,
darwinismes sociaux, ouais.
tout à fait, tout ce qu'on peut appeler le darwinisme social. Et donc on a cette idée que ces juifs de l'Empire tsariste, finalement, ils sont en phase de dégénérescence. Donc les envoyer en Palestine, c'est une façon de les réhabiliter, hein, d'une renaissance. Alors,
Il n'y a
les
pas de
Allemands de
projet
Sion,
politique derrière, c'est simplement. Mais
non,
enfin, ça reste quand même.
c'est un projet.
Est-ce que c'est le prémisse d'une colonie de peuplement?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on crée des colonies là-bas en Palestine, hein, alors des plantations de fruits, etc., où ces juifs pauvres donc de Russie d'aujourd'hui, de Roumanie, etc., sont envoyés. Et là-bas, ils travaillent, ils sont nourris. Alors, l'idée, ce n'est pas tellement de peupler. C'est beaucoup plus une rentabilité capitaliste. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ces plantations, ça rapporte. C'est un investissement. C'est un investissement et en même temps, donc, c'est une solution libérale à la question raciale. On pourrait dire libérale au sens économique. Hein. Donc on envoie ces gens là-bas et ils travaillent, et ils se réhabilitent en même temps par le travail. Et la réhabilitation par le travail, c'est toujours quelque chose qui est aussi très prégnant. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'idée d'État. Et ça, c'est important de le préciser dans ce grand courant qu'on appelle les Amants de Sion. Alors, il y a une référence à Sion en tant que référence biblique, religieuse, romantique, hein, mais ce n'est pas vraiment pour créer un État sioniste.
Alors, Theodor Herzl sillonne l'Europe, rencontre différentes organisations juives et obtient leur soutien. Il souhaite ensuite organiser le premier congrès sioniste à Munich, mais les rabbins de la ville s'y opposent. Il le fait donc, ce premier congrès sioniste, à Bâle, en Suisse. Il cherche des soutiens politiques, hein, il continue à chercher des soutiens politiques. Il est reçu par l'empereur Guillaume II à plusieurs reprises, à partir du 2 novembre 1898. Et en mai 1901, il rencontre pour la première fois le sultan ottoman Abdulhamid II pour justement négocier des terres de Palestine. Et Herzl propose d'effacer donc la dette de l'Empire ottoman qui est sur la fin, hein, en échange de la Palestine. Alors je vais peut-être vous laisser nous donner quelques détails sur cette période-là, hein, donc l'empereur Guillaume II et puis le sultan Abdulhamid II.
Alors, pas étonnant que les rabbins de Munich se soient opposés à la tenue, hein, du congrès sioniste à Munich. Ces rabbins de Munich sont à l'image de la plupart des rabbins de l'époque, puisqu'il faut insister sur sur un contexte politique. Les idées sionistes sont des idées ultra minoritaires et elles le resteront longtemps. Hein. Il y a environ, je crois, 2 millions de juifs donc dans l'Empire tsariste, hein, c'est quand même beaucoup pour l'époque, hein, et il y a très peu de gens qui, à l'époque, sont intéressés par les idées sionistes. Très peu. Et la plupart des rabbins, on le sait, jugent totalement, pas irréalistes, mais jugent absolument contraire à la religion cette idée de reconstituer un royaume juif sans le retour du Messie, et avant le retour du Messie, puisque selon l'eschatologie, hein, eh bien ce royaume juif ne sera constitué qu'avec le retour du Messie. Hein. Donc il juge cela complètement hérétique. Alors hérétique, si cela était le fait d'un religieux, mais Herzl n'est pas religieux. En tout cas, comment il considère que l'idée de reconstituer un État juif en Palestine sans le retour du Messie est quelque chose d'absolument interdit, et
C'est
d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
s'attribuer la prérogative
Bien sûr,
du Messie
bien sûr.
dans
Et
l'attente des Juifs. Ouais.
il faut savoir que cela est une idée qui est générale. Alors, les religieux contestent le sionisme, la bourgeoisie juive conteste le sionisme parce qu'elle craint que ces idées sionistes, eh bien, finalement, n'encouragent les antisémites et à forcer les juifs à partir vers la Palestine, alors que eux ont des situations confortable en Europe de l'Ouest. On parle vraiment de l'Europe de l'Ouest, hein, et pas uniquement pour la grande bourgeoisie, mais aussi pour un certain nombre de classes moyennes. Il y a quand même des classes moyennes juives en Europe de l'Ouest et qui ne souhaitent pas du tout aller vers la Palestine. Alors donc, cette idée, elle est quand même contestée par beaucoup de juifs, elle le sera encore très longtemps. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut absolument insister, par rapport à tous ceux qui tentent de réécrire l'histoire en considérant que, voilà, avec Herzl, la totalité du monde juif, comme un seul homme, se lève et disant « Oui, nous voulons aller en Palestine, hein, mettre l'appel sur l'épaule, et puis en régiment. » Non, non, c'est absolument faux. C'est des idées qui sont contestées. Et on va le voir, d'ailleurs, qui vont être contestées notamment par un grand courant socialiste juif qui s'appelle le Bund. Hein, dont on aura sans doute l'occasion de parler, parce que le Bund est l'organisation qui réunit le plus grand nombre de juifs dans l'Empire tsariste, précisément. Le Bund est une organisation de masse, et si on parle d'organisation de masse, je crois que le Bund a été vraiment une des organisations de masse les plus considérables de l'histoire, hein, en tout cas de l'histoire socialiste, hein, et qui en nombre d'adhérents dépassait largement tous les partis communistes qui pouvaient exister en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est. Donc toujours est-il que, en tout cas, c'est dans ce bouillonnement d'idées qu'effectivement va se tenir à Bâle ce congrès de 97. Alors, on aura l'occasion de revenir sur un personnage très important, Eschler, hein, et William Eschler, qui va jouer un grand rôle, ami de Herzl. Mais ce William Eschler, il va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes, et Herzl, effectivement, va rencontrer un grand nombre de dignitaires. Alors, il va s'adresser successivement aux Allemands, il va s'adresser aux Russes, il va s'adresser, on l'avait vu déjà aux Italiens, hein, il va s'adresser à tout le monde.
Au pape Pie X.
Alors, au pape, etc. Oui, alors, disons un mot là-dessus. Alors, il va s'adresser... Alors, Herzl a une conception pessimiste de l'histoire. Et ça, c'est vraiment une idée très importante qu'il faut avoir. Le sionisme est un pessimisme. On a différentes façons de voir l'histoire. Les marxistes, les socialistes, on pourrait dire, ce sont des optimistes. Hein, ils pensent que... Bon, alors... Vous les idées dites progressistes, hein, d'accord, que grosso modo, on va vers un mieux, on va vers un mieux. Alors, bien sûr, à force de travail, et à force de lutte, et par le combat, mais voilà, on peut aller vers un mieux, l'humanité peut aller vers un mieux. Et on a des idées qu'on peut qualifier de pessimistes, le sionisme en est une. Le sionisme dit « l'antisémitisme est de tout temps et de tout lieu, il n'y a aucune solution à l'antisémitisme, et la seule solution, enfin, le seul pis-aller, eh bien, c'est effectivement de créer une enclave juive, alors un État, d'accord, dans laquelle effectivement les Juifs peuvent trouver un refuge, un abri, voilà, contre l'antisémitisme, qui de toute façon ne peut pas être réglé. Alors que les marxistes, on va le voir avec beaucoup de penseurs marxistes, hein, bah, à commencer par Karl Marx lui-même, hein, mais beaucoup d'autres, et je pense particulièrement à Abraham Léon, conception matérialiste de l'histoire. Abraham Léon qui malheureusement disparaîtra dans la nuit nazie, hein, qui va mourir en déportation, hein, mais qui aura le temps d'écrire un livre qui s'appelle Conception matérialiste de l'histoire. Hein. Donc pour tous ces marxistes juifs, eh bien non, il y a une solution à l'antisémitisme, c'est la lutte des classes, c'est l'établissement du socialisme, l'établissement du communisme, et cela, effectivement, mettra fin, pas uniquement à l'antisémitisme, mais à tous les racismes, et en gros, à toutes les oppressions, hein, d'ordre économique, d'ordre culturel, etc.
Alors sur ce point, quand même, peut-être une petite observation, Youssef Bousma, dans son livre, alors on va revenir sur le livre, effectivement, dans un second temps, pour essayer de suivre la trajectoire historique, et ensuite voir un peu le contenu idéologique, un peu plus idéologique du sionisme. Mais tout de même, dans son livre, Theodor Herzl considère que la création d'un État pour les Juifs va contribuer à diminuer considérablement l'antisémitisme en Europe notamment, puisqu'il va permettre l'émigration des Juifs dans cette terre-là. Et d'ailleurs, il compte même sur la participation et la collaboration et le soutien actif d'acteurs politiques qui sont antisémites,
absolument.
Il le dit lui-même, et il considère
notamment
même...
Plev, le ministre russe, un des auteurs même de pogroms terribles.
Et il considère même que finalement, même pour les juifs assimilés qui souhaiteront rester dans ces pays européens, finalement, la création de cet État des juifs, pour les juifs, sera une bonne chose pour eux, puisque l'antisémitisme diminuera considérablement dans les pays où ils vivront. Voilà, donc il y a quand même cette idée pour Herzl que la création d'un État pour les juifs serait une solution à la question juive. Ça, c'est indéniable, en tous les cas, dans son livre.
Oui, parce que les sionistes, alors je l'ai dit, c'est une idée pessimiste, le sionisme, et le sionisme considère que même que l'antisémitisme est quelque chose de normal. Il ne considère pas que ce soit une anomalie. Le sionisme considère que l'antisémitisme est une réaction normale parce que la présence juive dans ce qu'on appelle dans l'exil, hein, enfin l'existence d'une diaspora, dans ce qu'on appelle la galoute, comment en hébreu, eh bien, est une anomalie, et il considère que à partir d'un certain nombre de juifs dans une société, eh bien, il est normal qu'il y ait de l'antisémitisme. Alors c'est une conception qui est totalement héritée des idées dont nous parlions tout à l'heure, hein, des idées raciales dont nous parlions tout à l'heure, qui ramènent l'humanité aux espèces animales, hein, avec des tas d'idées comme la lutte pour la vie, comme struggle for life, etc., et toutes ces idées, hein, où des communautés animales ne peuvent pas cohabiter, etc., à partir de... Bon bref, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que effectivement, on parlait de darwinisme social appliqué à l'humanité. Le sionisme est en plein dans cette conception. Dès lors, à partir de là, comme il ne peut pas y avoir de solution à l'antisémitisme, eh bien, il faut que les juifs partent, parce qu'en même temps, même si tous les juifs ne partent pas en Palestine, hein, eh bien, l'idée, c'est que le fait qu'un grand nombre de juifs partent vers la Palestine, ça va alléger le nombre de juifs qui demeurent, hein, et donc leur situation en sera meilleure, hein, y compris pour ces juifs. C'est un peu la conception de la bourgeoisie juive, hein, qui se dit, finalement, ce sont ces mâles juifs pauvres qui nous posent problème, hein, vite, cachons-les, envoyons-les là-bas en Palestine, hein, et cela va assainir l'atmosphère, hein, et va assainir les relations. Et c'est en ce sens que le sionisme est une idée réactionnaire. C'est une idée réactionnaire, comme en ce sens qu'elle prend comme étant un fait établi le racisme anti-juif. Hein, et c'est en ce sens. Alors, c'est donc pas étonnant que Herzl se soit intéressé à tous les pires antisémites de l'histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, Plève, le ministre russe qui était l'auteur d'un certain nombre de pogroms, etc. Et donc, et qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il s'adresse à ce ministre russe, et qu'est-ce qu'il dit ? On sait qu'un certain nombre de juifs à l'époque, même beaucoup, sont intéressés par les idées révolutionnaires,
oui, hein,
qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient marxistes, etc. Et Herzl, il va le voir en disant, mais écoutez, si vous m'aidez, je vous aiderai à vous débarrasser de vos révolutionnaires juifs.
Ouais. Hein.
Comment ? Ben, en les envoyant en Palestine, là-bas. Hein. En les envoyant en Palestine, là-bas, comme ça, ils vont débarrasser le plancher, hein, etc. Et de fait, un certain nombre d'antisémites à l'époque, eh bien, sont absolument enthousiastes sont vraiment enthousiasmés par les idées de Herzl, parce que Herzl va exactement dans leur sens, et Herzl va débarrasser l'Europe, hein, dans sa vision, hein, dans leur vision, et Herzl va débarrasser l'Europe de ces juifs qui, pour eux aussi, constituent des éléments à éliminer d'Europe. C'est anormal, ce sont des anomalies, hein, voilà. Voilà un petit peu. Donc, on ne peut pas comprendre le sionisme en dehors de tout ce concept nationaliste, chauvin, raciste.
Alors, je le rappelais, donc Herzl est reçu par l'empereur Guillaume II à plusieurs reprises, hein, en 1898. Et en 1901, il rencontre, oui, le sultan Abdulhamid II. Il essaye de négocier des terres en Palestine, puisque à ce moment-là, ces terres étaient sous la juridiction et l'administration
ottoman,
de l'Empire ottoman. Et alors, je voudrais lire simplement, et puis je vous laisserai commenter ça, la réponse du sultan Abdulhamid II. Alors, je vous donne la parole.
Allez-y.
Alors, juste pour retranscrire la citation, donc, quelle est la réponse de Abdulhamid II à Herzl ? Je cite, « Les terres de Palestine appartiennent au peuple ottoman, pas à moi.
Oui.
Je n'en vendrai aucune portion. Elles ont été conquises par le sang du peuple ottoman. Si vous voulez les prendre, il faudra que vous nous déchiquetiez. » Fin de citation. Voilà, donc c'est la réponse d'Abdulhamid II.
Alors, j'avais une réponse qui était un peu plus complète, donc,
oui,
qui correspond à cela. Et dans la réponse que j'avais lue, hein, je ne sais plus dans quelle traduction, ça allait un peu plus loin, et il disait, mais attendez encore un peu et vous les aurez gratuitement. Parce qu'on est en 1902, et on est dans le déclin de l'Empire ottoman. On est dans le déclin de l'Empire ottoman, hein. L'Empire ottoman est en train de se désagréger. Déjà, l'économie ottomane lui échappe complètement. Il faut savoir qu'en 1902, la banque impériale ottomane, qui émet la monnaie, elle n'est plus à Istanbul. Elle est entre les mains des Anglais et des Français. La monnaie ottomane à l'époque est faite à Paris et à Londres. Absolument incroyable. L'Empire ottoman est complètement, à cause de la dette ottomane et de ses difficultés économiques, plus les difficultés des irrédentismes qui s'agitent dans l'Empire ottoman. Hein. On a eu les Grecs, on a eu, etc. Eh bien, tout cela fait que le sultan, qui est aux prises, en plus avec une opposition nationaliste turque, parce qu'il est important de faire le distinguo
Les
entre
jeunes, ce
l'Empire
qui donnera
ottoman,
les jeunes Turcs, quoi.
bien sûr, qui donnera le jeune Turc, et qui finiront par déposer le sultan, un véritable coup d'État, hein, qui aura lieu en 1912. Et eh bien, il a conscience que son empire n'en a plus pour longtemps, d'une certaine façon. Et c'est d'où cette phrase qui est terrible, qui est teintée de prémonition. Attendez encore un peu et vous les aurez gratuitement. Et voilà, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, effectivement, l'idée de Herzl, c'est que de toute façon, jamais de la vie, on va accepter, enfin, un État, quel qu'il soit. Alors, il y a deux choses. Il y a la question de l'État et la question des populations. Hein. Alors, d'emblée, les populations, elles n'ont absolument aucune importance pour Herzl, on le verra. La question arabe est ce qu'on appelle la question cachée. Il n'y a pas d'existence, hein, il n'existe pas. En Palestine, Herzl part du principe que c'est une terre vide, qui
Une
appartient
terre sans
à
peuple.
l'empereur et qui peut en faire ce qu'il veut. D'où cette remarque de l'empereur qui est très juste. Cette terre ne m'appartient pas, enfin du sultan ottoman, cette terre ne m'appartient pas. Et donc du coup, Herzl sait que s'il ne peut pas avoir l'assentiment des populations, eh bien il peut au moins avoir l'assentiment des potentats, de ceux qui ont le pouvoir. Hein. Et pour lui, bah, dans sa vision libérale, réactionnaire, hein, c'est ce qui compte. Finalement, peu importe les populations, hein, ce qui compte, eh bien, c'est d'avoir l'adhésion et le soutien des gens de pouvoir. De ceux qui ont le pouvoir. Hein? Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à l'époque, toutes les colonisations se font, et c'est la raison pour laquelle le sionisme est vraiment un mouvement colonial, en ce sens. Il s'adresse aux puissants et il ne cherche pas à gagner les cœurs des populations, à faire valoir le progrès qu'il pourrait apporter, etc. Si tant est que les populations puissent accepter un colonialisme de cette façon. Hein? Non, il s'adresse directement aux gens de pouvoir et il espère bien que ces gens de pouvoir imposeront par la force cette présence d'un nouvel État dans la région.
Alors, on reviendra, hein, pour conclure ce premier entretien sur cette occultation des Palestiniens, même si on ne les appelait pas les Palestiniens à cette époque-là, des populations arabes, du peuple arabe de cette époque-là. On poursuit le fil de ce cheminement. En 1902-1903, Herzl rencontre Joseph Chamberlain, qui est le secrétaire d'État aux colonies de l'Empire britannique. Et par l'intermédiaire de l'Empire britannique, il négocie avec le gouvernement égyptien de l'époque une charte pour l'installation des Juifs dans une région qui se trouve dans la péninsule du Sinaï, qui est à peu près au sud de la Palestine. Mais ce projet va échouer, et ce projet finira par échouer. Et donc, pour compenser cet échec, les Britanniques vont offrir à Herzl l'implantation d'une grande colonie juive de peuplement, avec gouvernement autonome, sous souveraineté britannique, en Afrique de l'Est. Et cela, c'est ce qu'on appellera finalement le
Le
projet
Kenya,
Ouganda.
oui, Ouganda, et puis on a
Voilà.
aussi pensé au Kenya,
Voilà,
oui.
donc voilà, peut-être un commentaire sur cette séquence historique.
Eh bien, d'abord, l'Égypte à l'époque est une semi-colonie britannique. Hein. Il faut le savoir, l'Égypte a perdu sa souveraineté. Hein. Et donc, les Britanniques, et c'est intéressant parce que là vient d'apparaître l'élément britannique, la puissance britannique, l'Empire britannique, qui est quand même la grande puissance de l'époque, la première puissance, il faut le dire, hein, même si elle est concurrencée par la France. Et pour les Britanniques, eh bien, les Britanniques essayent de voir l'intérêt qu'ils pourraient tirer de l'établissement d'un État juif. Où ça, bah, pourquoi l'Afrique de l'Est et pourquoi bah, la présence du canal de Suez, évidemment. On ne peut pas comprendre l'attitude des Britanniques et toute la politique britannique à l'époque hein, se lit à travers cette obsession du canal de Suez. Pourquoi? Bah, pour la route des Indes. Pour la route des Indes, justement. Hein. Et donc, du coup, déjà, on a cette idée en germe. Un État juif, mais ça aurait pu être un État avec une autre communauté, c'est ça qui est intéressant, hein, à proximité du canal de Suez, assurerait les intérêts de la couronne britannique et en quelque sorte ferait le gardien, serait le gardien du canal. Serait le gardien du canal de Suez. Le canal de Suez, qui est une, n'oublions pas, une invention française, une conception française, Ferdinand de Lesseps, hein, mais qui, la France s'est fait chipper le canal de Suez par différents moyens par les Anglais. Hein, et donc les Anglais voilà, verraient d'un bon œil l'établissement d'un État juif. Alors, Ouganda, on a parlé aussi du Kenya, mais c'est vrai que pour Herzl à l'époque, l'emplacement de cet État juif n'est pas encore complètement réglé. Et il est prêt à accepter des tas d'autres solutions, en dehors de la Palestine. Hein. Il y a des tas d'autres solutions qui seront proposées. Certains, d'autres sionistes, parlent de même de la Patagonie, le sud de l'Argentine. Voilà, il y a eu quantité de projets dans l'histoire d'États juifs. Hein.
Alors, tout à fait, dans son livre, il aborde la question Argentine ou Palestine, c'est très présent. Donc, finalement, il pensait même au Congo, donc l'Afrique de l'Est. Donc, en 1905, le 6e congrès sioniste va refuser ce projet de création d'un État juif dans l'Afrique de l'Est et va plutôt pencher pour la Palestine. Voilà, donc ça, c'est un peu la dernière séquence historique concernant la vie de Théodore Herzl, puisque le projet du sionisme va évidemment continuer. Donc, peut-être l'occasion justement de se pencher sur ce livre, hein, L'État des Juifs, qu'on a abordé en filigrane. Donc, comme vous l'avez dit, le sous-titre de ce livre, finalement, expose l'idée centrale de ce livre, qui est de comprendre que la seule réponse à la question juive, comme vous l'avez abordé, ce serait la création d'un État pour les Juifs. Voilà. Alors, on a dit que cette idée-là n'est pas née avec Théodore Herzl, mais finalement, elle va être structurée dans ce livre, qui est, d'une certaine manière, un livre de planification et de programmation. Et donc, avant d'arriver sur cette dimension de programmation et de planification, revenir quand même sur cette idée de question juive, qui est quand même la plus importante, puisque, d'une certaine manière, le sionisme se conçoit comme une réponse, comme la réponse au problème ou à la question juive. Donc, voilà, cette question juive, c'est finalement, c'est quoi? C'est l'antisémitisme persistant de l'Europe. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous parliez tout à l'heure de question nationale, finalement. Voilà, comment on articule la question le problème de la question juive avec celui de l'État pour les Juifs, puisqu'on a bien vu que Herzl, au départ, n'était pas très convaincu par cette idée, alors qu'il était conscient. Il était conscient, c'est-à-dire qu'on pouvait être conscient de l'antisémitisme sans adhérer nécessairement au
Au
sionisme.
sionisme.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on comprend que, en tous les cas, dans cet esprit-là, on comprend que ce sera la solution au problème juif, en tous les cas, dans cet esprit-là.
Oui, effectivement, le sionisme ne peut pas se comprendre sans l'antisémitisme. Donc, le sionisme n'est pas une idée positive en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas une aspiration en soi. Par exemple, le nationalisme allemand ou le nationalisme italien, d'autres nationalismes qui vont apparaître par la suite, hein, et qui vont même donner naissance avec la Première Guerre mondiale à la création d'États comme la Yougoslavie, d'États comme la Tchécoslovaquie. Ce n'est pas une aspiration d'un peuple à une résurgence. Non, là, c'est une réponse à un problème social terrible qui est celui du racisme. Donc, baser toute une idéologie sur uniquement une réponse à une question sociale négative, enfin, le racisme, est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir? Je veux dire, bon, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'autres. Herzl n'a pas envie d'attendre, il n'a pas envie. D'abord, Herzl est un bourgeois, il n'a que faire de la révolution. Il y a ça aussi, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les idées socialistes, qui n'aime pas du tout le marxisme, etc. Bien qu'un marxiste comme Moïse Hess, on l'a dit tout à l'heure, finalement va abandonner cette idée et puis va adopter le sionisme, mais par abandon des idées socialistes. Donc c'est un renoncement, le sionisme. Hein. Donc considérer que on puisse régler une question raciale, non pas en la résolvant sur place, mais en la déportant sous la forme d'un État à des milliers de kilomètres, c'est quand même assez particulier. C'est assez particulier. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. Auparavant, on l'a dit, il y a eu des illuminés, hein, c'est vrai, des illuminés qui se promettaient de ramener tout le peuple juif,
Un messianisme.
des messianistes, etc., qui voulaient prendre la tête d'une grande croisade du retour, entre guillemets, des juifs. Bon, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre religieux, d'un allant, etc., etc., etc. Parce que pendant tout ce temps, pendant tous ces siècles, il est possible aux juifs d'aller en Palestine. Ne l'oublions pas. Les Ottomans, et depuis même la naissance de l'Empire Ottoman, hein, d'accord? Eh bien, donc au XVIe, hein, la fin du XVIe, eh bien, cet Empire Ottoman va permettre comment aux Juifs de venir en Palestine. Donc, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas eu plus? C'est une question. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas eu plus? Puisque les chiffres, on les connaît, hein. On n'est plus à l'époque romaine, donc les Juifs peuvent se déplacer dans l'Empire Ottoman, et même d'ailleurs, l'Empire Ottoman, on le sait, a été un refuge pour de nombreux juifs. Mais tous ces juifs qui ont fui l'Espagne, l'Inquisition, etc., et qui sont allés se réfugier dans ce qui viendra l'Empire ottoman, d'accord, comment, eh bien, à partir de Soliman, eh bien, comment tous ces juifs comment ne vont pas forcément en Palestine. Certains vont à Jérusalem, mais ils vont de l'Empire ottoman, en tout cas. Alors, c'est quand même particulier de faire coïncider cette volonté de certains juifs religieux d'aller en Palestine avec cette idée de renaissance nationale. Parce qu'en fait, c'est deux choses différentes. Et c'est une confusion qui est faite que je trouve un petit peu abusive, en fait. Dire que les juifs ont voulu toujours retourner, etc. Non, c'est faux. Puisque pendant tous ces siècles, ils le pouvaient, ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, les portes étaient ouvertes. Donc, il y a tout un romantisme qui tend à faire croire que Herzl, tout d'un coup, eh bien, va permettre aux Juifs d'aller. Non, la réalité est différente. Et d'ailleurs, je le rappelle, l'immense majorité des Juifs ne sont pas du tout intéressés par ce projet. Ceux qui vont l'être, alors, j'ai parlé de tous ces Juifs pauvres, de toutes ces masses juives pauvres, comment, de Russie, et il y a aussi les déçus. Il y a aussi les déçus du socialisme. Ceux qui fondaient leurs espoirs sur une révolution socialiste, notamment en Russie, parce que la Russie, on l'a vu, hein, est le cœur de toute cette affaire. C'est vraiment la Russie qui est le cœur, et l'empire tsariste, enfin la Russie en général, la Russie tsariste, hein, pas la Russie dans ses frontières d'aujourd'hui, est vraiment au cœur de toute cette aventure sioniste. Hein, c'est pas un hasard. Et après 1904, 1905, enfin aux alentours de 1904-1905, lorsque les espoirs révolutionnaires vont être déçus, alors là, on va voir aussi un grand apport de ces socialistes et de ces anarchistes russes en direction de la Palestine. Penser, considérer que la création d'un État, eh bien, pourrait être une solution à une question raciale, n'est pas propre uniquement au sionisme. C'est aussi un tel mouvement qui est à l'origine de la création du Liberia, on le sait. Et le Liberia, qui est donc un État créé en Afrique de l'Ouest, par des anciens esclaves aux États-Unis, et qui lui aussi s'inscrivait dans cette vision de apporter une réponse étatique à une question raciale. C'est comme ça que le Liberia a été créé. Et on voit avec quel peu de succès, justement, avec quel succès relatif, dirons-nous. Eh bien, le Liberia, disons, est-ce que le Liberia a réussi à juguler le racisme aux États-Unis, le racisme anti-noir aux États-Unis, la négrophobie? Certainement pas. Il fut question à un moment de créer un État noir dans le sud des États-Unis. Hein, on l'a vu, ça a été une idée qui existe à l'époque, hein, entre autres, comment d'un certain nombre, comment d'activistes et de militants noirs. Cette idée d'ailleurs parfois a été soutenue par des racistes blancs. Hein. Donc le sionisme, on pourrait trouver d'autres solutions comme ça, enfin d'autres idées comme ça, d'autres de courants politiques qui ont voulu apporter une réponse étatique à un phénomène raciste. Et le sionisme, de ce point de vue, n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il est exceptionnel en ce sens qu'il a réussi, hein, et qu'il était situé dans une région éminemment éminemment stratégique. On le voit jusqu'à aujourd'hui.
Alors, je vais citer un passage du livre de Herzl, donc l'État des Juifs, où il décrit un peu la question de l'antisémitisme et les problèmes que cet antisémitisme crée. Nous avons partout loyalement essayé d'entrer dans les collectivités nationales qui nous environnent en ne conservant que la foi de nos pères. On ne l'admet pas. En vain sommes-nous de sincères patriotes, voire même dans différents endroits d'exubérants patriotes. En vain faisons-nous les mêmes sacrifices en argent et en sang que nos concitoyens. En vain nous efforçons-nous de relever la gloire de nos patries respectives dans les arts et dans les sciences et d'augmenter leur richesse par le commerce et les transactions. Dans ces patries où nous habitons déjà depuis des siècles, nous sommes décriés comme étrangers et souvent par ceux dont la race n'était pas encore dans le pays alors que nos pères y souffraient déjà. La majorité peut décider qui est l'étranger dans le pays. C'est là une question de puissance, comme tout d'ailleurs dans les relations des peuples. Fin de citation. Alors, je trouve que ce passage, il est intéressant, parce qu'il soulève finalement la question du nationalisme dans sa version exclusive, voilà, qui n'admet pas une certaine pluralité dans la constitution d'un État-nation. Et ça, c'est des questions aussi qui peuvent parler à une partie de notre auditoire. Et finalement, ce constat que l'assimilation peut-être, l'assimilation ou l'acceptation d'une composante juive, donc dans le contexte de cette époque, finalement, était impossible dans le cadre de l'État-nation. Et c'est pourtant ce cadre-là qui va être tout de même privilégié
tout à fait,
par le sionisme et qui va produire lui-même, et ça on en parlera dans la dernière partie de l'entretien, qui produira lui-même cette exclusion, d'ailleurs à double titre, puisqu'il y a la dimension coloniale, il n'y a même pas cette question de légitimité, voilà, et cette question du racisme vis-à-vis donc, du peuple palestinien. Donc peut-être un commentaire sur cette séquence.
Oui. D'abord, Herzl oublie quelque chose, et il y a quelque chose qui est vraiment absent de toutes ses analyses, c'est la question du capitalisme. On ne peut pas comprendre tout cela sans observer que tout cela se passe dans le développement intense du capitalisme à l'époque. Et le capitalisme, avec tous les bouleversements de classe qu'il opère, eh bien, effectivement, va être le promoteur de toutes ces vagues racistes. On ne peut pas distinguer les formes raciales extrêmes qui apparaissent à ce moment-là du développement capitaliste. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, on ne peut pas comprendre aussi les grandes vagues racistes qui ont lieu aujourd'hui dans des pays comme la France, notamment je pense à l'islamophobie, sans pointer du doigt le fait que cela se passe dans un système de libéralisme économique, dur, extrêmement cruel même, hein, et où les dynamiques sociales sont vraiment des dynamiques sociales problématiques sont à l'œuvre. Et donc il en va de même pour le sionisme. Il en va de même pour le sionisme, l'antisémitisme, encore une fois, n'est pas de tout lieu et de tout temps. Il va prendre cette forme extrême parce qu'à l'époque, eh bien, je le dis, on est en plein bouleversement social qui est induit par la croissance capitaliste. Et ce n'est pas hasard si cela se passe aussi dans l'Empire tsariste, que l'Empire tsariste est en plein bouillonnement industriel. Voilà. Donc c'est quelque chose qui échappe complètement à Herzl, et il a une vision complètement subjective des choses. Et on voit bien que cette approche subjective, hein, de l'histoire, se distingue totalement des approches matérialistes que lui opposeront des penseurs marxistes, entre autres, hein, et qui ne n'analysent pas du tout l'antisémitisme de la même façon que Herzl.
Alors, le postulat politique n'est pas le même, effectivement, parce que, comme on le disait tout à l'heure, pour Herzl, la solution se réglera, est une question nationale.
Alors,
puisque finalement, il en parle beaucoup dans son livre, il explique que la révolution, elle se fera sur les dos... C'est-à-dire que ce soit le développement de la bourgeoisie
ou du prolétariat, juive, oui.
Voilà, se fait en génère de l'antisémitisme, et la révolution prolétaire, étant donné le fait que beaucoup de cerveaux, il le dit lui-même hein, dans ce livre, beaucoup d'intelligences juives vont se rallier, qui font partie des prolétaires, donc qui sont aussi les perdants sociaux du moment, vont rejoindre les rangs de la Révolution et donc finalement vont aussi nourrir un certain antisémitisme. Et donc finalement, sur tous les tableaux, finalement, pour Herzl, en tous les cas, c'est le regard qu'il porte, les Juifs de son époque sont perdants sur tous les tableaux. Donc il y a une dimension un peu transsociale.
C'est sa conception, mais elle est fausse. Mais elle est fausse parce que, on le voit bien, on va le voir aussi en Russie, hein, et bien comment la révolution gomme effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que la révolution règle tous les problèmes instantanément, d'un coup de baguette magique, on est bien d'accord, hein, mais la révolution bolchevique va mettre un terme à ces poussées de pogroms. Ça c'est un fait. Alors, qu'ensuite. L'avenir du communisme a été celui que l'on sait, c'est autre chose. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des formes politiques possibles en dehors de ce que Herzl postule. Je veux dire pour régler la question de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, le fait est que la création d'un État juif n'a pas réglé la question de l'antisémitisme.
Alors ça, on y reviendra sur les contradictions du sionisme. Ce serait intéressant. Donc, deux outils ont été créés par Herzl, ou en tous les cas sont proposés par Herzl pour cet État juif, ou cet État des Juifs. Alors, effectivement, le titre du livre, c'est l'État juif. La traduction exacte, c'est l'État des Juifs. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Herzl a suivi la publication en langue française, la traduction en langue française de son ouvrage, et qu'il a vu ce titre-là, mais qu'il n'a pas, voilà, qu'il n'a pas demandé à ce que des modifications soient faites. Donc, deux outils sont créés, la Society of Jews et la Jewish Company. Herzl définit la Society of Jews comme le nouveau Moïse des Juifs. Voilà, donc c'est peut-être un mot là-dessus sur la dimension un peu pratique de cette.
Alors, vous l'avez dit, en fait, là, le livre, alors l'État des Juifs, l'État juif, juste d'abord une petite remarque là-dessus, ça implique simplement un débat. Ça implique un débat, c'est que si on dit l'État juif, c'est un État qui est exclusivement juif, et si on dit l'État des Juifs, c'est un État qui est celui des Juifs, mais pas forcément exclusivement celui des Juifs, où il peut y avoir des non-Juifs dedans. Alors c'est très intéressant, parce qu'on retrouvera là. La dichotomie, enfin ce qui va distinguer Weizmann de Ben Gourion. Weizmann, qui est le premier grand leader sioniste post-Herzl, hein, et Ben Gourion, qui prendra la suite à partir de 1942, la conférence de l'hôtel Biltmore à New York. Weizmann disait, la Palestine doit être autant juive que l'Angleterre est anglaise. Dans une Angleterre anglaise, il n'y a pas que des Anglais. Il y a des Écossais, il y a des Irlandais, il y a des Indiens, il y a quantité d'autres peuples. D'accord? Donc, ça pourrait correspondre à l'État des Juifs. Tandis que Ben Gourion, qui lui répondra en 1942 à la conférence de l'hôtel Biltmore et qui prendra le pouvoir sur Weizmann, répondra: non, non, l'État juif ne doit pas être aussi juif que l'Angleterre est anglaise, il doit être aussi juif que possible. Ça veut dire qu'on va repousser au maximum tout ce qui n'est pas juif. Et ça correspondrait justement à la traduction de l'État juif, hein, si je devais faire un parallèle comme ça. Bon, une petite observation sémantique. Alors, pour en revenir à cela, c'est un livre, l'État des Juifs, qui est très, où on voit tout le côté méticuleux de Herzl, qui s'emploie à définir dans les moindres détails toutes les formes que pourrait prendre et tous les aspects pratiques, logistiques, comment de cet État des Juifs, de cet État juif, d'accord?
C'est un manuel, c'est un mode d'emploi clé en
Absolument.
main qu'il fournit
Voilà,
finalement.
exactement. Comment créer un État, hein, ça pourrait être, voilà. Comment créer un État, manuel pratique, vous voulez créer un État à partir d'une question raciale, il n'y a pas de problème, voilà, je vous offre un modèle.
Un aspect, une dimension scientifique, hein, qui
Voilà.
correspond aussi aux idéaux de la progressiste de la modernité de l'époque. C'est très présent dans le livre.
Absolument, c'est tout cet aspect. On peut retrouver tout l'aspect scientiste aussi, hein, tout ce côté scientiste. On est en pleine période scientiste. Bon, en France, avec un écrivain comme Jules Verne, par exemple, hein, on verra que c'est quelque chose de très très important. Hein, et donc, on essaye de tout organiser avec les progrès de la science, la méthode, etc. Et puis aussi les nouveaux outils commerciaux, je veux dire, les nouveaux outils économiques avec cette compagnie Achart, effectivement, de. Comment la compagnie, la Jewish Company, c'est ça, hein? Et donc, en gros, ça fait tout à fait référence comment à ces entreprises qui étaient créées où des entrepreneurs avaient l'exclusivité sur un commerce et ils se faisaient délivrer par un État, hein, des franchises, qu'on pourrait appeler une franchise, hein, donc la capacité comment d'établir un monopole sur un commerce ou sur un autre, ou en tout cas, comment la possibilité de s'installer, d'avoir un monopole, d'avoir le privilège. Hein, voilà. C'est un petit peu ce que recherche comment Herzl, qui est tout à fait dans cette conception des choses. Il voudrait se faire délivrer par une grande puissance, eh bien, le privilège d'organiser la colonisation dans un pays, alors entre autres la Palestine. Et c'est à ça que correspond cette Jewish Company.
Alors vous le disiez, il n'est pas adepte des idées révolutionnaires, hein, vous le disiez bien. Ce qui est intéressant, c'est de souligner aussi qu'il est très méfiant vis-à-vis de la haute bourgeoisie juive de l'époque, puisqu'il dit, je cite, la chose, donc la chose, c'est le projet qu'il défend, la chose n'aura peut-être pas le précieux suffrage des manias de la finance juive. Ceux-ci essaieront peut-être même, par leurs valets et leurs agents secrets, d'engager la lutte contre notre mouvement. Une pareille lutte, nous la soutiendrions comme toutes celles qui pourraient nous être imposées avec une âpreté exempte de tout ménagement. Fin de citation. Donc voilà, quelle est la base de cette méfiance vis-à-vis de la haute bourgeoisie juive de l'époque? Vous le disiez, c'est quoi? C'est
Ben
l'assimilation?
exactement, cette bourgeoisie juive de l'époque, elle ne cherche pas spécialement à partir en Palestine. Elle tient à sa position, elle est, disons qu'elle est à l'aise dans les différents pays où elle se trouve. Et d'ailleurs, on le verra qu'au moment de la déclaration Balfour, un certain nombre de ces bourgeois juifs s'opposeront. On aura Lord Montagu en Angleterre, entre autres, qui sera un des plus fervents opposants à la déclaration Balfour. Hein? Mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, parce que la crainte de ces gens, hein, eh bien, c'est qu'effectivement, je le répète, on les dépossède de leurs biens, de leur situation en Europe de l'Ouest, et qu'on les envoie. Voilà, ils savent qu'un certain nombre de personnes seraient trop contents, hein, de les déposséder de leurs biens et de les envoyer baguenaudés du côté de la Palestine. Hein? D'autant que dans son livre, Herzl, si je me rappelle bien, et vous le notiez, Herzl parle d'un abandon des biens des Juifs qui partiraient. Hein. Ils laisseraient sur place leurs biens et
Qui serait
voilà.
géré par les deux structures, Society of Jews et Jewish Company, et en échange, une terre leur serait donnée, un pourceau de terre et une maison ou un financement de maison. En fait, voilà, une espèce de contrepartie. Vous laissez ces biens-là et vous
Voilà.
aurez l'équivalent là-bas.
Voilà. Donc on peut imaginer qu'un certain nombre de racistes européens sont très intéressés par ce départ des juifs, comment des juifs riches, hein, de certains juifs riches vers la Palestine. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez incroyable. Alors Herzl les considère comme étant des ennemis de son projet, bien sûr.
Mais il les intègre,
Mais
hein,
il les intègre finalement. Il essaye de savoir de quelle façon il va pouvoir les utiliser, les instrumentaliser à son profit. Donc il se dit que par le profit, on peut les gagner, on peut les domestiquer par le profit. Voilà. Et donc il cherche le moyen de les intéresser à son projet,
Alors
au sens propre du terme.
un aspect de la relation de Herzl à l'identité juive. Et notamment à l'identité religieuse, donc à l'identité du judaïsme dans la conception du sionisme qu'il défend. On entend souvent dire que Herzl est un laïc, et finalement, avec comme sous-entendu le fait qu'il y aurait une distension, une distanciation, pardon, voire même une hostilité vis-à-vis de la composante religieuse juive, donc le rabbinat, les rabbins, la tradition du judaïsme en général. Quand on lit le livre, il est comme, alors il y a deux éléments qu'il faut distinguer. Premier élément, c'est que finalement, on sent qu'il y a quand même une intégration de la dimension religieuse du judaïsme dans le projet sioniste. Alors, je vais lire quelques passages assez courts qui traduisent un peu cette idée. Nous entendons dans la vie du sentiment conserver religieusement tout un passé auquel nous sommes si profondément attachés. Alors, donc ça c'est une première citation. Ensuite, juste pour donner le contexte de la seconde citation pour la comprendre, dans le projet de Herzl, il y avait l'idée de créer des groupes autonomes, des groupes de populations autonomes qui s'organiseraient donc, dans la terre, qui serait la terre de l'État des Juifs. Là, je prends la deuxième citation. Chaque groupe, donc chacun de ces groupes, a son rabbin qui marche à la tête de sa communauté. Tous s'assemblent naturellement. Le groupe local se forme autour du rabbin. Les rabbins seront ainsi les premiers à nous comprendre, à s'enthousiasmer pour la cause et à communiquer leur enthousiasme aux autres du haut de la chair. Nous ne reconnaissons notre nationalité qu'à la foi de nos pères. Israël priera pour nous et pour lui-même. Fin de citation. Voilà, donc on voit quand même, finalement, dans ces citations et d'autres, hein, il y en aurait beaucoup d'autres, qu'il n'y a pas de clivage ou il n'y a pas de rupture dans le projet de Herzl avec le judaïsme et la composante religieuse de l'identité juive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, c'est nous l'avions dit déjà, pour Herzl, la Bible est un livre d'histoire. Et dans cette vision des choses, les rabbins sont des personnes importantes de la communauté, qui structurent la communauté, indépendamment même de l'aspect strictement religieux. Ces rabbins ont une influence, parce que ces rabbins, finalement, ce sont les personnes qui sont au plus proche, qui sont au plus près des mages juives, hein, et donc qui exercent une sorte de magistère moral sur ces masses juives, et il est important de les intégrer au projet, mais je crois que Herzl les considère beaucoup plus comme des agents recruteurs que vraiment comme des gens qui vont semblant qui dispensent une vision religieuse. Hein. Et il n'est pas tellement intéressé par le discours religieux. Il est intéressé par l'aspect disons d'organisation de la communauté. Cette communauté est organisée souvent parce qu'en plus tous les juifs ne se regroupent pas autour des rabbins, il y a ça aussi, hein. Mais pour lui, il cherche quel est l'élément social capable de l'aider dans sa tâche. Et il n'y en a pas 36. Hein. Ce sont les rabbins qui sont plus proches des communautés juives, même si tous les juifs ne sont pas proches des rabbins, etc. Et encore une fois, la Bible est vue comme un livre d'histoire. Donc pour Herzl, il existe un peuple juif qui est présent où ? Bah, dans les Écritures saintes. Et même si effectivement, lui n'est pas très intéressé par la religion en tant que telle, mais il l'apprend d'un point de vue historique. Il y a un peuple juif, et c'est pour ça qu'on parlait de vision ethnico-religieuse, qui d'ailleurs sera même propre à beaucoup de sionistes socialistes. Hein. Pour un Ben Gourion, par exemple, qui s'affirmera plutôt matérialiste, qui n'est pas spécialement religieux, eh bien, effectivement, pour Ben Gourion, Israël est l'expression nationale du peuple hébreu. Alors, quand faudrait-il qu'on définisse et si jamais on devait se pencher d'un point de vue historique.
Alors, on y reviendra.
On y reviendra, mais on le. Oui, effectivement, on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, donc, on prend comme étant un fait établi, l'histoire religieuse, et on se place dans cette continuité. Et donc, les rabbins sont simplement des agents de cette histoire. Comment obtenir une libération nationale du peuple hébreu tel qu'il est défini dans les Écritures saintes.
Donc il intègre quand même, parce qu'il y a une dernière citation qui est très courte que je vais lire, où Herzl dit, toujours dans ce livre, « Nous ne nous reconnaissons comme appartenant à la même race qu'à la foi de nos pères. » Fin de citation. Donc, et ça rejoint un peu l'idée finalement que la diaspora juive dans le monde, puisqu'il y avait cette idée de diaspora, rendait impossible au départ la constitution d'un peuple qui parlerait la même langue, puisqu'il n'y avait même plus de même langue, plus de même histoire, et que finalement le seul élément qui rattacherait l'identité juive serait la foi. Il parle de la foi de nos pères. Donc c'est quand même une idée qui est présente dans la vision de Herzl. C'est pas seulement une instrumentalisation de la fonction des rabbins. On sent quand même que l'identité du juif de l'époque, et qui va être le moteur du sionisme, c'est la foi de nos pères, comme pour le citer.
Mais oui, précisément parce qu'il y a une diversité de communautés juives, donc on essaie de chercher le plus petit dénominateur commun, comme on dit en mathématiques, hein. Et d'ailleurs, cette idée est aussi valable aujourd'hui. Donc, en fait, on a affaire à des communautés juives qui n'ont rien à voir entre elles, en réalité. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qui unit aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait unifier aujourd'hui, comment un juif d'Europe de l'Est et un juif du Maghreb. Et je dirais même pas la religion. Je dirais même pas la religion, justement. Si on pourrait dire la religion, même pas, justement, parce que même les rites sont différents, les approches sont très différentes, la façon même de dire la religion, de faire la religion sont extrêmement différentes. Et donc, il y a quelque chose d'un peu forcé là-dedans. Hein. Alors, évidemment, il dit la foi de nos pères. Oui, mais la foi, est-ce que la foi suffit comment à unifier? Mais en tout cas, il parle de foi parce qu'il n'y a rien d'autre, en vérité. Parce que le juif anglais ou le juif français de l'époque, qu'a-t-il à voir vraiment avec le juif russe, le juif lituanien ou le juif roumain au même moment? Absolument rien. Ni culturellement, ni socialement, ni politiquement. Et donc, vouloir faire une nation de tous ces gens-là, il y a un côté quand même extrêmement artificiel, je veux dire, qui est indéniable. Alors, c'est logique qu'il parle de la foi de nos pères, mais même cette foi est-elle la même? Ça n'est pas sûr du tout. Ça n'est pas sûr du tout, puisque voilà, l'histoire nous a montré que les rites sont très différents et les approches sont très différentes.
Alors le deuxième aspect que j'évoquais tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux aspects sur cette question, c'est que finalement dans son livre, il s'oppose tout de même, malgré ce qu'on vient de dire, il s'oppose à l'idée d'une théocratie. Voilà, aurons-nous donc à la fin une théocratie? Non. Si la foi nous maintient unis, la science nous rend libres. Par conséquent, nous ne laisserons point prendre racine aux velléités théocratiques de nos ecclésiastiques. Nous saurons les maintenir dans leur temple, de même que nous maintiendrons dans leur caserne nos soldats professionnels. Dans l'État qui les distingue, ils n'ont rien à dire, c'est-à-dire à la fois les religieux et les militaires, ils n'ont rien à dire, car autrement ils provoqueraient des difficultés extérieures et intérieures. Fin de citation. Alors c'est intéressant cette citation, parce que finalement on voit bien aujourd'hui ce qu'est le pouvoir politique israélien du moment. On voit bien qu'il y a un échec complet finalement de cette prévision de Herzl, puisque c'est à la fois...
Une théocratie, une théocratie et un ordre militaire.
Une dictature militaire politiquement gouvernée par une coalition de partis religieux. Donc il semble un double échec. Mais c'est quand même intéressant cette tension entre l'identité religieuse juive au cœur de l'identité et ce refus finalement que ça aille trop loin, que ça déborde et de rester dans un cadre moderne finalement, moderne, la science, la civilisation.
Oui, effectivement, ça fait partie de l'utopie dans l'utopie, hein, dans l'utopie de Herzl, parce que n'oublions pas que le sionisme est une utopie, et à l'époque, on est vraiment en plein...
Ce que lui rétorque hein, à plusieurs reprises, il dit « ce n'est pas une utopie ».
Oui, justement, il dit « ce n'est pas une utopie », mais précisément parce que ça l'est, parce qu'il se rend bien compte que ça l'est. Et on est en pleine période utopiste à l'époque, n'oublions pas, c'est qu'à l'époque se créent des tas de communautés, des tas de collectivités, soi-disant futuristes. On a un exemple très important à l'époque, c'est à la fin du 19e, c'est l'exemple de la Cécilia, une grande communauté qui a été imaginée par des anarchistes italiens, justement, hein, et qui désespérant de l'émergence du socialisme et de la naissance et du triomphe du socialisme en Italie, eh bien, partent au Brésil, en Amazonie, se font accorder une concession par l'empereur du Brésil, hein, une concession territoriale, et édifient là-bas une communauté qu'ils pensent être l'embryon d'une grande collectivité socialiste où on pratiquerait le socialisme réel. Hein. Et alors, on l'appelle la Cécilia, c'est un exemple qui est très connu et qui va se terminer dans un massacre épouvantable, dans une guerre civile épouvantable et qui va disparaître comme cela. Ça a donné lieu à des livres, des films, etc. Mais voilà, donc je dis, on est en plein... C'est une utopie. Le sionisme est une utopie. Et d'ailleurs, l'avenir nous montrera. L'avenir nous montrera, et on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est une utopie qui, selon nous... n'a pas forcément réussi, enfin, qui n'a même pas, et vous le dites avec une grande justesse, qui n'a pas su éviter les deux écueils que Herzl voyait, hein, le côté religieux, intégriste religieux, dirait-on aujourd'hui, le côté militaire, une société hyper militarisée. Et on voit bien, et effectivement, c'est une remarque qui est très juste, puisque on le constate aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant dans cette vision idéaliste, vous parliez d'utopie, il y a quelques citations que je vais faire et qui prêtent à sourire aujourd'hui avec le recul, hein, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, mais qui témoignent un peu de la vision idéaliste et utopique du sionisme chez Herzl. Chacun est aussi complètement libre dans sa foi ou dans son incrédulité que dans sa nationalité. Et s'il arrive que des fidèles d'une autre confession, des membres d'une autre nationalité habitent aussi chez nous, nous leur accorderons une protection honorable et l'égalité des droits. Nous avons appris la tolérance en Europe, je ne dis même pas cela par ironie. Et un peu plus loin, il dit, le nouvel État juif doit être fondé honnêtement, car nous songeons à notre honneur futur dans le monde. Fin de citation. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne peut que sourire, on ne peut que sourire quand on lit ce type de citation, ce qui est intéressant, c'est de montrer finalement l'échec du sionisme, du point de vue même du sionisme, hein, je parle, hein, évidemment, puisque c'est de ce point de vue-là qu'il est question dans cette citation. C'est un échec de ce point de vue-là, à la lumière de ce qui se passe, et aussi sur la question de l'antisémitisme, puisque le sionisme et la question de l'État juif étaient censés mettre un terme
Résoudre.
à l'antisémitisme. On voit aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, quelque part aussi dans le livre de Herzl, il y a aussi une instrumentalisation de l'antisémitisme, puisqu'il y a cette volonté de collaborer avec des antisémites et de considérer l'intérêt commun dans ce projet. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on assiste à toutes les contradictions du projet sioniste, c'est-à-dire aujourd'hui avec le recul historique? Qu'on a pu constater toutes les contradictions portées par cette vision idéaliste du sionisme.
Bien comme souvent d'ailleurs, comme souvent les visions idéalistes ne correspondent que peu à que très peu même à la réalité. Et effectivement, ce que vous disiez est tout à fait juste. Herzl, même du point de vue de Herzl, hein, même avec une conception proche de celle de Herzl, eh bien on ne peut que constater l'échec de ce projet total. Hein. Alors lorsque l'on parle de tolérance, sans doute davantage encore, de quelle tolérance s'agit-il?
Égalité des droits aussi.
Égalité des droits, etc. Herzl est un utopiste, et alors sans doute pourrait-on dire que Herzl est un utopiste bien intentionné, hein, vertueux, mais aussi conforme à son époque, conforme à son époque, hein, avec tout le sentiment d'appartenir à une classe quand même supérieure, hein, et qui regarde les juifs pauvres avec un de haut, qui regarde les autres peuples aussi de très haut, hein, les autres peuples non occidentaux évidemment de très haut, hein, mais malgré tout il a quand même une vision qui disons libérale au plan des idées, hein, des idées donc de tolérance, des idées d'acceptation, on l'a vu, de refus de dictature militaire ou de poids trop important des militaires, des religieux. Mais c'est quelque chose, il ne peut pas s'opposer à la réalité. Il ne peut pas s'opposer à la réalité. Il vit dans un monde capitaliste qui exacerbe les forces les plus réactionnaires, qu'elles soient religieuses ou séculières. Et donc, du coup, eh bien, disons que l'état de Herzl, l'état auquel le projet de Herzl a abouti aujourd'hui est effectivement conforme à la dynamique historique qui a été instaurée par Herzl et qui lui échappe. C'est que le sionisme en tant que tel est une dynamique historique que sans doute Herzl a enclenchée. Herzl pense l'avoir enclenchée comment de son propre chef, mais en fait c'est quelque chose qui lui échappe et ça nous ramène vraiment à cette conception de Marx. Je pourrais ramener ça à cette conception de Marx dans la question juive de Marx, lorsqu'il dit que certains juifs, hein, pensent s'être faits contre l'histoire alors qu'ils se sont faits avec l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, eh bien, on a des dynamiques sociales qui sont là, et donc les dynamiques du capitalisme. Hein. Certains juifs pensent qu'ils ont réussi à se maintenir en dépit du capitalisme, et Marx dit non, c'est exactement le contraire, c'est le capitalisme qui vous a maintenu, alors quand Marx dit vous a maintenu à l'écart, dans une position inférieure. C'est en ce sens. Hein. Certains pensent que voilà, nous avons réussi à triompher en dépit de tout, de toute l'adversité, etc., etc. Mais Marx dit, ben non, précisément, c'est le capitalisme qui a fait que les Juifs, eh bien, ne se sont pas intégrés et ont été maintenus à l'écart. Hein? Pourquoi finalement cette assimilation? Alors, disons, considérer l'assimilation, hein, on peut avoir un regard sur l'assimilation, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, peu importe. Mais une chose est certaine, c'est lorsque l'on vit dans une société, eh bien, finalement, à terme, on s'assimile. De toute façon, lorsque les ressorts normaux de cette société fonctionnent, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une uniformisation.
Une déculturation.
Hein,
déculturation,
bien sûr.
Acculturation.
Finalement, il y a malgré tout une intégration de fait, lorsqu'une société fonctionne normalement. Hein. Alors, ça peut prendre des formes diverses. Je veux dire, en Orient, par exemple, si on prend les sociétés traditionnelles en Orient, on a des sociétés qui sont intégrées, et pourtant, on a des communautés qui sont bien présentes. Mais cela ne veut pas dire forcément hostilité, concurrence, etc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sionisme, d'une certaine façon, eh bien, comment est un mythe, en ce sens qu'il prétend aller à l'encontre des lois de l'histoire, enfin des lois de l'histoire, ou en tout cas des dynamiques historiques, hein, et en fait, eh bien, il est porté par ces dynamiques historiques.
Alors, pour arriver à la dernière partie de cette émission, de cet entretien, Youssef Boussouma, ce qui surprend considérablement le lecteur d'aujourd'hui, de 2024, qui lirait l'État des Juifs, c'est l'absence totale de référence au peuple, alors, j'allais dire au peuple palestinien, à l'époque on ne parlait pas de peuple palestinien, mais du peuple arabe vivant sur la terre de Palestine, ou des populations arabes de Palestine. Absolument aucune mention n'est faite d'une population qui vivrait en Palestine. Alors, on pourrait nous rétorquer le fait que dans ce livre, il n'est pas encore déterminé de manière décisive qui serait de la Palestine, c'est vrai, puisqu'il est question d'Argentine. Dans le livre, hein, on a parlé de l'Ouganda, là ça c'est le cadre historique, hein, le cadre politique historique, mais dans l'ouvrage, il fait mention de l'Argentine, il fait mention de la Palestine, mais l'expression de terre promise est utilisée régulièrement dans l'ouvrage, donc ça donne quand même une petite inclination de Herzl lui-même. Quoi qu'il en soit, il ne mentionne aucunement la question de la population palestinienne, du peuple palestinien ou de la population arabe de Palestine, ne serait-ce que pour réfléchir sur le défi du point de vue sioniste, hein, je reste dans la position, dans le décryptage de l'idéologie sioniste, le défi que cela constituerait pour les sionistes, le fait de finalement de se substituer aux Palestiniens. Comment on peut expliquer cet angle mort de ce livre sur cette absence de référence?
Alors d'abord, une chose, et encore une fois, Herzl est enfant de son siècle, et il a la conception, donc c'est un Européen, européo-centré, évidemment par définition, qui ne remet pas en question cette domination européenne, cette vision du monde, cette vision, nous dirait-on, du Nord, hein, sur le Sud, hein, le Nord global et le Sud global, et donc du coup, eh bien, les Palestiniens n'existent pas. Pour lui, tout simplement, ils n'existent pas, comme n'existent pas pour les Américains de la conquête de l'Amérique, les Indiens, ou si peu, comme n'existent pas les aborigènes d'Australie pour les colons britanniques qui viendront donc en Australie, et ainsi de suite, comme n'existent pas les Arabes d'Algérie pour les colons français, sauf lorsqu'ils s'opposent. Lorsqu'ils s'opposent avec vigueur à l'entreprise coloniale. Donc les Palestiniens à l'époque n'existent pas, alors c'est ce qu'on appelle la question cachée. Hein. C'est l'expression de la question cachée. La question arabe, c'est la question cachée. Alors la question, et le débat qui a lieu, même jusqu'à aujourd'hui, est de savoir est-ce que Herzl a vu ou n'a pas vu les Arabes de Palestine. Vous savez que ça a donné lieu à un des grands mythes sionistes qui est la Palestine, terre sans peuple, pour un peuple sans terre, donc, dixit, le peuple juif. Hein. Et donc, du coup, certains disent non,
il s'est rendu
pas
en
vu...
Palestine.
Pardon ?
Il s'est rendu en Palestine, Herzl,
il ne s'est pas rendu en Palestine, je crois. Alors, en tout cas, je crois qu'il se rendra à Jérusalem. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'il voit ? Il s'est rendu en Égypte. Et lorsqu'il est en Égypte, l'Égypte qui est sous la férule britannique, il rencontre des jeunes Égyptiens, enfin ce qu'on appelle le mouvement Jeune Égypte déjà, hein, Donc on a des mouvements jeunes partout, le mouvement jeune turc, le mouvement jeune Égypte, etc. Tous ces courants nationalistes, on les appelle mouvements jeunes, hein, suivis du nom du pays. Et donc lorsqu'il rencontre ces Égyptiens nationalistes, il dit, mais c'est des gens formidables, intelligents, ils sont l'avenir du pays. Ils sont l'avenir du pays et c'est évident que les Anglais auront fort affaire avec eux, hein, auront des problèmes avec eux parce qu'ils sont aptes à prendre les rênes du pouvoir, etc. Par contre, en Palestine, non. Enfin, il n'ira pas en Palestine, mais il n'envisage même pas, donc à ma connaissance, il s'est quand même rendu à Jérusalem. Il aurait dû rencontrer normalement le Kaiser à Jérusalem, il ne l'a pas rencontré à Jérusalem, mais il y a une reconstitution photographique qui a été faite, une sorte de montage photographique pour l'époque, hein, qui a été faite, où on voit Herzl qui serait à Jérusalem et qui rencontrerait le Kaiser. Mais en tout cas, il ignore complètement les Palestiniens. Alors, l'idée est la suivante. Est-ce qu'il les a vus? Est-ce qu'il les a pas vus? La thèse que je reprends de Elias Sambar, l'auteur dans Palestine 48, l'expulsion, Elias Sambar dit une chose qui, ma foi, est fort juste. Il dit, en fait, il les voit, mais il les voit, bien sûr, enfin, il sait qu'ils sont là, mais ils n'ont pas plus d'importance que les ronces ou que les rochers. C'est simplement des obstacles à écarter. Donc, bien sûr, il les voit, on sait, mais ils
Ils
font
sont
partie du
insignifiants,
décor.
c'est ça?
Insignifiants. Insignifiant. Exactement comme des rochers, des ronces, on sait très bien que bon, c'est un problème qu'il faudra, ou les cailloux dans un champ, on sait très bien qu'il y a un problème, qu'à un moment ou un autre, il va falloir les écarter. Mais c'est tout. Ils ne sont pas dotés d'une volonté politique, ils ne sont pas animés, ils ne peuvent pas animer même un courant d'opposition. Ils sont insignifiants, effectivement. Alors ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui est propre à... Alors, faut le répéter, Herzl est simplement enfant de son époque. Hein, à travers le sionisme, c'est toute l'histoire coloniale qui nous est dévoilée, en vérité. C'est toute l'histoire, c'est une quintessence du regard colonial chez Herzl, certes qui est poussé à son paroxysme, malheureusement, de triste manière, on le voit aujourd'hui. Mais voilà, donc Herzl n'est pas différent, finalement, des autres. Ça, c'est important de le préciser. Hein.
Oui, il y a des historiens qui ont souligné cet aspect-là. Et d'ailleurs, il y a quelques citations de Herzl qui illustrent ce propos-là. Je vais les lire rapidement pour conclure cet entretien. Donc voilà ce que dit Herzl concernant le Moyen-Orient et les populations qui y vivent. C'est la volonté de Dieu que nous revenions sur la terre de nos pères. Nous devrons, ce faisant, représenter la civilisation occidentale et apporter l'hygiène, l'ordre et les coutumes pures de l'Occident dans ce bout d'Orient pestiféré et corrompu. Fin de citation. Je vais en citer quelques autres. Le retour des Juifs semi-asiatiques sous la domination de personnes authentiquement modernes doit sans aucun doute signifier la restauration de la santé dans ce bout d'Orient négligé. Pour l'Europe, nous constituerions là-bas un morceau de rempart contre l'Asie. Nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. Fin de citation.
Oui, je pense
Voilà.
que
Donc, je
tout
pense
est
que.
dit,
Ouais.
effectivement, ça c'est la citation qui est la plus connue, hein, un rempart contre la barbarie. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que le sionisme est vu un petit peu comme dans la foulée, c'est pour ça que beaucoup de commentateurs arabes, on aura l'occasion ensuite sans doute de dire un mot sur la façon dont la déclaration Balfour a été reçue par les Arabes à l'époque, c'est intéressant. Et parce que le monde arabe à l'époque et le monde oriental à l'époque est quand même au fait de tout cela. Voilà, si Herzl s'imagine que les gens étaient dans l'indifférence ou en tout cas dans la méconnaissance, c'est faux. Alors, c'est intéressant. Une autre remarque intéressante, donc, c'est que le sionisme se veut le continuateur de ce long bras de l'Occident, de ce long bras contre toute attente et contre toute réalité même géographique. L'Orient apparaît pour l'Occident comme étant, comme étant, l'Orient apparaît comme étant le prolongement naturel de l'Occident. L'Occident, enfin un Occident imaginaire, on est bien d'accord, mais imaginé par des Occidentaux, certains Occidentaux, hein, depuis les croisades, eh bien, comment a toujours considéré l'Orient comme étant une terre d'Occident finalement, par la religion. L'Occident, ne l'oublions pas. L'Occident a capté une religion orientale. Le christianisme est une religion orientale qui est née en Palestine précisément et qui ensuite devenant religion d'État à Rome, hein, et s'est imposée de façon même terrible à l'encontre même du message d'origine du christianisme. Et le christianisme, en quelque sorte, est revenu comme un boomerang en Orient sous la forme des croisades. Ça, c'est le côté complètement hallucinant de cette histoire. Et le sionisme est une forme de nouvelle croisade pour Herzl, est une forme de nouvelle croisade qui permet à l'Occident de reprendre pied dans cette région problématique, certes complètement apathique, pestiférée, comme il dit, hein, mais qui est extrêmement importante pour l'Occident. Il a compris que l'Occident, hein, veut reprendre pied dans cette région, hein, et il se met au service de ce désir occidental. Il est vraiment l'homme de son siècle. Ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, lorsqu'il dit que les Juifs sont semi-asiatiques, ça, c'est aussi important aussi, parce que c'est une idée qui sera reprise par de grands antisémites. N'oublions pas, hein, d'accord, c'est exactement ce que pensait Hitler, hein, non seulement des Juifs, enfin des Slaves en général, hein, peuple asiatique, hein, toujours cette Asie, alors cette Asie au sens large. Il faut bien comprendre que l'Orient, c'est l'Asie, hein, d'accord? Et c'est cet Orient lymphatique, mais en même temps problématique, inquiétant,
Barbare.
barbare, bien sûr, hein,
C'est-à-dire.
et qu'il s'agit de contenir, parce que si on ne le contient pas, c'est lui qui va contenir, c'est lui qui contiendra l'Europe, d'une certaine façon. Hein, on parle d'invasion, on parlera par la suite de péril jaune, etc. Alors, il faut bien comprendre que tout cela est mêlé, hein, le péril jaune, le péril arabe, c'est un petit peu la même chose. Herzl a compris cela. Et il se fait le porteur de cette angoisse occidentale. Nous serons la sentinelle avancée, hein, de l'Occident, en quelque sorte.
Merci beaucoup Youssef Boussouma. C'est la fin de ce premier entretien d'une série qui en contiendra beaucoup d'autres sur l'histoire de la Palestine, sur les origines et la genèse et la généalogie du sionisme. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt sur Mizen TV.